Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3.
Bonjour, bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Alors pour cette émission, là, je la dédie à Julos Bocarn, qui était un poète et un chanteur, grand ami d'Amnesty, qui a toujours défendu les mêmes causes que nous, le respect de la dignité humaine, les droits humains. C'était un écologiste aussi, et je sais que beaucoup de jeunes ne le connaissent pas, même des anciens, hein, ils ne passent pas énormément à la télévision. Donc, dans cette émission, on va pouvoir écouter 4 chansons, et puis une lettre qui est chantée par Claude Nougaro. Lettre ouverte de Julos Bocarn quand sa femme a été assassinée et qui sentait monter notamment l'extrême droite en faveur de la peine de mort. Et lui, c'est un abolitionniste depuis très longtemps. Et alors qu'il avait toutes les raisons d'être dans ce drame qu'il a vécu, d'être pour ce châtiment... Il a fait un texte qui est extraordinaire, vous l'entendrez par Claude Nougaro. Ensuite, vous entendrez 2 chansons de lui qui montrent son engagement politique pour plus de justice. Et puis, c'était aussi un poète de la tendresse. Et on finira par 2 chansons beaucoup plus tendres, De mémoire de rose et J'aimerais tant te parler tendre. Voilà, donc cette émission est un hommage à Julos Bocarn, qui est décédé récemment. On va d'abord parler de la peine de mort, qui est un combat toujours d'actualité. En effet, il y a 40 ans, une nouvelle victoire pour la dignité humaine avait lieu sur le long chemin de l'abolition universelle. La France abolissait enfin la peine de mort. Il y a tout juste 40 ans, la peine de mort était encore une réalité en France. C'est en 1981 que le pays se détourne de cette peine d'un autre âge. Le 9 octobre 2021 est l'occasion de célébrer cet acte historique. Ce jour où la France mettait fin aux homicides volontaires et prémédités, aux assassinats étatiques. Depuis cette date, quels que soient les gouvernements, la France a toujours affirmé son opposition en toutes circonstances à la peine capitale. Aujourd'hui, l'abolition de la peine de mort a petit à petit fait son chemin, victoire après victoire, pays après pays. Pourtant, en 2021, même si 2/3 des pays dans le monde sont désormais abolitionnistes, 55 pays continuent toujours à condamner à mort des personnes, parmi lesquelles notamment la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite ou encore les États-Unis. Il faut donc aller plus loin désormais et obtenir l'abolition universelle. La France, État qui a décidé de tourner le dos à cette peine il y a 40 ans, doit désormais tout mettre en œuvre pour appuyer le combat en faveur de l'abolition universelle. Parce que la peine de mort est irréversible, l'abolition universelle doit l'être aussi. Nous combattrons sans relâche jusqu'à la disparition totale de ce châtiment inhumain. Alors, grâce aux actions des membres d'Amnesty et des sympathisants, on a des cas justement de personnes qui ont été sauvées de la peine de mort grâce au soutien d'Amnesty International et à son combat. Antoinette Chahine, que nous connaissons bien ici puisqu'elle est citoyenne d'honneur de la ville de Digne, était une étudiante anonyme de la faculté de Beyrouth quand elle a été arrêtée en juin 1994, accusée d'avoir participé à un meurtre d'un prêtre. Elle est condamnée à mort en janvier 1997. Elle a 26 ans. Suivent 5 ans d'enfermement, le Liban n'exécutant pas les femmes. Rejugée à la suite d'une mobilisation internationale sans précédent de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et d'Amnesty International notamment, elle est finalement innocentée le 24 juin 1999. Depuis, Antoinette Chahine se bat depuis pour que son histoire ne se répète plus. Donc elle intervient dans les pays, au sein des groupes d'Amnesty, justement pour parler de ce qu'elle a vécu, la torture et la peine de mort. Un autre cas, à 16 ans, Mosé Akatugba était un lycéen comme tant d'autres dans le sud du Nigeria. Plein d'espoir dans l'avenir, il attendait les résultats de ses examens. Lorsqu'il a été arrêté par la police en 2005 pour vol à main armée, une infraction qu'il nie avoir commise. Après avoir passé 8 années derrière les barreaux, Moses est condamné à mort par pendaison, sur la base d'aveux arrachés sous la torture. Au total, plus de 800 000 signatures ont été recueillies dans le monde pour demander au gouverneur de l'État du Delta, Emmanuel Uduaghan, de commuer sa condamnation à mort. Grâce à cette mobilisation, le 28 mai 2015, Emmanuel Uduaghan, le gouverneur de l'État du Delta au Nigeria, a totalement gracié Moses. Saman Nassim avait 17 ans quand il a été condamné pour inimitié à l'égard de Dieu par les autorités iraniennes. Il avait été plusieurs reprises sur le point d'être exécuté. Grâce à une forte mobilisation internationale, plus de 200 000 actions avaient été menées en sa faveur. Des milliers de militants ont également envoyé des messages de soutien à Saman Nassim et à sa famille pour demander à ce qu'il bénéficie d'un nouveau procès équitable. Grâce à cette campagne que nous avons menée sans relâche, il n'est plus sous le coup de la peine de mort depuis janvier 2018. Et puis Charul Izani, arrêté en possession de 622 grammes de cannabis, a été déclaré coupable de trafic de drogue et condamné à mort en vertu de la loi malaisienne. Après 4 ans de mobilisation internationale, des milliers de pétitions signées et des cartes de soutien envoyées des quatre coins du monde, la condamnation à mort de Charul est enfin annulée. D'après nos informations, l'énorme pression exercée sur les autorités malaisiennes par la mobilisation mondiale est à l'origine de cette victoire. Et enfin, en Arabie Saoudite, arrêté à l'âge de 17 ans pour des infractions commises alors qu'il participait à des manifestations antigouvernementales en 2012, Ali Al-Nimr a été condamné à mort sur la base d'aveux obtenus sous la torture et d'un procès inique. En février 2021, sa sentence a été commuée à une peine d'emprisonnement de 10 ans. Le temps passé en prison étant déjà pris en compte, il devrait être libéré en 2022. Voilà des victoires que nous avons obtenues dans ce combat contre la peine de mort. On va donc écouter ce texte magnifique dit par Claude Nougaro.
Extrait de la lettre que Julos Bocarne écrivit dans la nuit du 2 au 3 février 1975, après la mort de sa femme assassinée par un homme devenu fou. Ami bien-aimé, ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses. On doit manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis. Comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers.
Voilà ce texte magnifique. Espérons qu'il a rejoint sa loulou. On va maintenant parler de l'Afghanistan, hein, puisque c'est d'actualité. Les talibans ont martelé qu'ils respecteraient les droits des Afghanes et des Afghans, mais c'est bien le contraire, une répression à grande échelle qu'on observe depuis la prise de Kaboul. Nous avons sorti un rapport conduit avec la Fédération internationale pour les droits de l'homme et l'Organisation mondiale contre la torture, qui dévoile une longue liste d'atteintes aux droits humains. L'ensemble du peuple afghan subit des restrictions et des atteintes majeures à leurs droits. La liberté d'expression est attaquée de toutes parts, notamment via la répression des manifestations et des médias. Les femmes, déjà les grandes victimes du régime taliban en place de 1996 à 2001, sont de nouveau soumises à de multiples restrictions de leur liberté et à des représailles en cas de transgression. Le droit international a également été bafoué puisque des civils, ainsi que des soldats qui s'étaient rendus, ont été tués dans le Panchir. Dans cette région, dernier bastion anti-taliban est tombé. L'aide humanitaire fait face à un blocus. 5 semaines seulement après avoir pris le contrôle de l'Afghanistan, les talibans ont clairement démontré qu'ils ne comptent ni protéger ni respecter les droits fondamentaux, a dit la directrice adjointe pour l'Asie du Sud, Amnesty International. En raison d'une connexion mobile défaillante dans de nombreuses régions et de coupures volontaires d'Internet, les conclusions de notre rapport ne sont sans doute qu'un petit aperçu de la réalité sur place. Les talibans pourchassent toutes les personnes engagées pour les droits humains. Pour survivre, celles-ci n'ont d'autre choix que d'entrer dans la clandestinité. Elles vivent sous la menace constante d'être arrêtées, torturées, voire tuées. Nous nous sommes entretenus avec Mahmoud, le nom a été changé, un défenseur afghan qui est parvenu à quitter le pays. Le jour où les talibans sont entrés dans Kaboul, il a reçu un appel lui demandant de remettre les véhicules, l'équipement et l'argent de son ONG. Son interlocuteur connaissait son nom et lui a ordonné de coopérer. Au cours des jours suivants, il a reçu d'autres appels et messages WhatsApp lui demandant son adresse personnelle. 2 de ses collègues ont été frappés et fouettés par les talibans. Delphine Reculot, qui est directrice du programme Défenseur des droits humains à l'OMCT, a dit « Les défenseurs des droits humains sont attaqués sur tous les fronts car ils sont considérés comme les ennemis des talibans. Ceux qui ont réussi à quitter le pays sont désormais bloqués dans des camps militaires ou dans les pays voisins, ne connaissant pas leur destination finale ni comment ils pourront reconstruire leur vie brisée du jour au lendemain. » 2 femmes journalistes installées à Kaboul nous ont raconté les menaces et les actes d'intimidation qu'elles subissent depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. Par crainte de représailles violentes, de nombreuses Afghanes portent aujourd'hui la burqa et s'abstiennent de sortir de chez elles sans un tuteur masculin. Malgré la myriade de menaces qui pèsent sur les droits des femmes à travers le pays, certaines continuent pourtant à manifester. La plupart des manifestations ont été violemment réprimées par les talibans. Le 4 septembre 2021 à Kaboul, une centaine de femmes ont été dispersées par les forces spéciales qui ont tiré en l'air et auraient utilisé des gaz lacrymogènes. Le 8 septembre, le ministère de l'Intérieur, désormais contrôlé par les talibans, a publié un décret interdisant toutes les manifestations et tous les rassemblements en Afghanistan. Nous demandons au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies d'instituer un mécanisme d'enquête robuste et indépendant pour documenter les crimes relevant du droit international et mettre fin à l'impunité. Les civils afghans menacés doivent pouvoir sortir du pays et bénéficier d'une protection. La communauté internationale doit garantir des voies légales et sûres pour les réfugiés. Voilà, la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte le 20 septembre. Ça doit être l'occasion de mesures concrètes. On va maintenant écouter Jules Bocard dans une chanson qui s'appelle « Lettre à Kissinger ».
Je veux te raconter Kissinger, l'histoire d'un de mes amis. Son nom ne te dira rien, il était chanteur au Chili. Ça se passait dans un grand stade, on avait amené une table. Mon ami qui s'appelait Jara fut amené tout près de là. On lui fit mettre la main gauche sur la table et un officier, d'un seul coup avec une hache, les doigts de la gauche a tranché. D'un autre coup, il sectionna les doigts de la dextre et jara, tomba tout son sang giclé, 6000 prisonniers criaient. L'officier déposa la hache, il s'appelait peut-être Kissinger, il piétina Victor Jara, chante dit-il, tu es moins fier. Levant ses mains vides des doigts qui pinçaient hier la guitare, Jara se releva doucement, faisant plaisir au commandant. Il entonna l'hymne de l'unité populaire, repris par les 6000 voix des prisonniers de cet enfer. Une rafale de mitraillettes abattit alors mon ami, celui qui a pointé son arme s'appelait peut-être Kissinger. Cette histoire que j'ai racontée, Kissinger ne se passait pas en 42, mais hier, en septembre 73.
Voilà, chanson très dure, mais très engagée aussi. Et c'est pendant ces dictatures sud-américaines, hein, c'est ce qui m'a fait rentrer à Amnesty, moi, dans les années 71. Voilà, nous allons maintenant parler de l'opacité sur les ventes d'armes françaises. Alors, ça fait longtemps hein, qu'on parle de ce sujet sur notre antenne et qu'Amnesty s'y intéresse, puisque la France est un des plus grands vendeurs d'armes du monde. Et il y a longtemps qu'on dénonce cette opacité. Alors, maintenant, on a décidé d'aller un peu plus loin et de saisir la justice. En effet, le 23 septembre 2021, conjointement avec le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains et le média d'investigation Disclose, nous avons saisi le tribunal administratif de Paris. L'objectif ? Contraindre l'administration des douanes à communiquer les documents sur l'exportation de matériel de guerre, de maintenance et de formation de la France. Plus particulièrement, nous cherchons à faire la lumière sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. C'est la première fois en France que la juridiction administrative est saisie pour contester le refus de communication de documents douaniers relatifs à des ventes d'armes en lien avec le conflit au Yémen. Compte tenu du risque considérable que des armes françaises soient utilisées pour commettre de graves violations du droit international humanitaire contre les populations civiles au Yémen, le refus de communiquer ces informations douanières constitue une atteinte disproportionnée au droit fondamental du public de recevoir les informations nécessaires à l'exercice d'un débat public légitime et démocratique. Nos organisations font suite au silence écrasant opposé par l'administration des douanes et la commission d'accès aux documents administratifs à leur sollicitation d'informations détenues par les douanes sur les quantités, dates et destinations finales de certains matériels de guerre « Made in France » dont il est établi qu'ils sont utilisés dans le conflit au Yémen. Parmi ces matériels, on retrouve des avions Mirage, des missiles, des canons César, etc. Malgré les preuves accablantes des attaques commises par la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au Yémen depuis 2015 contre les populations et infrastructures civiles, la France continue de livrer des matériels de guerre et à fournir maintenance et formation à ces pays. Le traité sur les commerces des armes, le TCA, de même que le droit européen et français, interdisent strictement ces exportations dès lors qu'il existe un risque qu'elles facilitent la commission de crimes de guerre. Pourtant, la France a livré pour plus de 8 milliards d'euros de matériel de guerre sur la période 2015-2020 à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Ce manque de transparence est un obstacle majeur au contrôle à la fois parlementaire, judiciaire et démocratique sur les exportations d'armes françaises. Sans accès à une information suffisamment précise et fiable, aucun contrôle n'est possible sur le respect par la France de ses engagements internationaux en matière de droits humains. Une étude réalisée par Harris Interactive en 2021 révèle que 3 Français sur 4 souhaitent plus de transparence et de contrôle de la part des autorités françaises. Ils estiment également que la France devrait suspendre ses exportations d'armes vers les pays impliqués dans les guerres civiles, comme dans le cas du Yémen. 72% d'entre eux estiment également que le commerce des armes de la France devrait faire l'objet d'un débat public. Voilà, donc nous portons devant les tribunaux ce fait. On va maintenant écouter une autre chanson engagée de Jules Bocarn, « Les loups ont des têtes de mouton ».
Depuis que Lumumba fut tué pour avoir dit sa vérité, depuis que là-haut et là-haut, parce qu'il avait parlé tout haut, depuis qu'on étouffa une fille dans un avion pour pas qu'elle crie, les loups ont des têtes de mouton, derrière les roses il y a des chardons. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la foule. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Celui qui se tient au perché, il a le droit de vous supprimer. De beaux enfants sautent sur des mines, mais on n'arrête pas la machine. D'autres sont drogués pour tuer, et la cocaïne les défait. Nous vivons en pleine barbarie, les soldats violent toujours les filles. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la foule. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Chez nous, un jeune homme fut visé, tiré comme un lièvre en un pré pour le diamant qui s'est gagné, a été totalement détruit. Il y a des fabriques et des boutiques de fusillades pas d'ici. La mort fait vivre nos ouvriers, l'emploi est sauf, on laisse couler. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la foule. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Des femmes sont tuées à chaque jour, par jalousie, par leurs amours. Il y a des petites filles qui sont forcées, et toute leur vie en est gâchée. Il y en a d'autres à qui on enlève le clitoris, leur vie s'achève. À 3 ans on tourne la page, leur vivant c'est déjà veuvage. Tout le monde veut être tout en haut pour tenir le manche de la foule. Une fois qu'il tient, il veut faucher, et le cauchemar de recommencer. Les petits regardants devenus grands veulent jouer au grand jeu des grands. Il n'y en a pas un qui est épargné, tout le monde veut être le premier. Nous sommes 6 milliards tout en bas, maraboutés au nom de quoi? Au nom du pèse, au nom du fisc et du sacro-saint bénéfice. Mineurs et majeurs détournés par des bonimenteurs roués qui veulent que nous marchions au pas et dans les souliers de leur choix. C'est celui qui est tout en bas, qui est bien plus fort qu'il ne croit. Si nous le voulons, toi et moi, le cauchemar s'arrêtera. 6 milliards de petits regardants peuvent devenir acteurs puissants. 6 milliards de gens conscients ensemble changent le cours du temps.
Ah oui.
Cette chanson, elle a peut-être plus de 40 ans et
Exactement.
Elle est d'une actualité terrible. Ouais. Et oui, donc je vous conseille vivement, ceux qui ne le connaissent pas trop,
d'écouter
Julos Bocarn. Voilà, on va maintenant parler de la chronique d'Amnesty. Vous savez, c'est un journal mensuel. Chacun peut s'abonner, hein, même sans être membre d'Amnesty. Et il y a des informations, bien sûr, sur les droits humains. Donc, vous avez une chronique de la présidente. Ensuite, vous avez un entretien, en général, d'un écrivain ou d'un journaliste. Ensuite, vous avez des petites informations sur les droits. Par exemple, dans le dernier numéro de septembre, là, concernant la Chine, vous avez la situation des mineurs isolés qui sont désormais fichés. Alors, c'est quelque chose qui nous tient, nous, à cœur, puisque on travaille notamment avec les mineurs non accompagnés qui sont sur Digne. Et il arrive que certains de ces mineurs ont remettre en question leur minorité. Et dans l'article là cité, on parle de la défenseur des droits, Claire Hédon, qui déplore une procédure relevant d'un contrôle et d'une gestion des flux migratoires dont devraient être exclus les mineurs non accompagnés, car en effet, ceux-ci devraient bénéficier de la présomption de minorité. Or, dans les faits, on constate que très souvent, ces mineurs ne bénéficient pas de la présomption de minorité. Et puis, vous avez un dossier très important. Alors, ce dossier est le fruit d'une longue enquête et porte sur Wagner. Wagner, c'est le nom de l'armée secrète de Poutine. Opaque, criminel, impuni. Voilà comment on pourrait définir le groupe Wagner. Une armée privée de mercenaires travaillant pour le compte de la Russie, même si celle-ci s'en défend. On les retrouve dans plusieurs pays où ils sont employés pour officiellement gérer la sécurité. Certaines de leurs exactions ont atteint un tel degré de violence que les plus hautes instances internationales s'en inquiètent. En particulier, depuis que des journalistes ayant cherché à enquêter sur cette armée occulte ont été assassinés. Denis Korotkov découvre en novembre 2019 des images d'une torture d'un jeune Syrien de 31 ans. Des images terribles. Cet ancien policier de Saint-Pétersbourg, aujourd'hui reporter pour le journal d'opposition russe Novaya Gazeta, tente de percer le mystère de cette vidéo anonyme qui circule sur le web depuis 2017. Sur une image, un tortionnaire apparaît sans foulard. Il n'en faut pas plus à Korotkov pour l'identifier sur un réseau social avec un logiciel de reconnaissance faciale. Il s'appelle Stanislas Dishko. Le journaliste recherche son nom dans un document confidentiel qu'il a récupéré, répertoriant des Russes qui combattent dans le groupe Wagner. Dishko est sur la liste. Le groupe Wagner. Depuis 6 ans, Korotkov enquête sur cette organisation mystérieuse. Imaginez une armée privée de 2500 à 5000 mercenaires, selon les sources, présente depuis 2014 sur les zones de conflit de la planète où la Russie a des intérêts stratégiques. Aujourd'hui, des ONG des droits humains, comme Amnesty International, la FIDH ou l'association russe Mémorial, les accusent de commettre des tortures, des exécutions ou des viols contre des civils dans des zones de conflit. Paris et Washington soupçonnent Moscou de les manipuler en douce, au bénéfice de la politique étrangère du président Poutine, même si le Kremlin dément toujours. En 2016, photo à l'appui, Korotkov révèle que la Russie entraîne une armée privée dans ses casernes. Le ministère de la Défense dément et accuse son média de propager de fausses nouvelles. C'est un contrat. Alors, je vous lis des extraits. Hein. Si vous voulez avoir le dossier complet, vous pouvez aller à la bibliothèque de Digne, parce que nous avons abonné la bibliothèque à notre mensuel, la chronique. Donc, quel est le boss dans tout ça ? C'est un contrat secret qui récupère en 2016, signé cette année-là entre l'État syrien et une société russe, Europolis, qui le met sur la piste. Europolis s'engage à libérer les champs pétroliers et gaziers saisis par les opposants d'Assad et reçoit en échange 25% de leur production. Nikita nous explique « Ceux qui reprenaient par les armes le pétrole et le gaz à Daesh, c'était nous, les gars de Wagner. Europolis et Wagner, c'était la même chose. » Korotkov, le média russe RCB et le site d'investigation Bellingcat découvrent alors que les dirigeants d'Europolis partagent des numéros de téléphone en commun avec 2 douzaines d'entreprises appartenant à un milliardaire de Saint-Pétersbourg, Evgeny Prigogine. Aucun document officiel ne le relie à Wagner, mais lorsque Korotkov soumet son nom aux soldats de Wagner, ils opinent « c'est le boss ». C'est lui le boss. Voilà, donc pour vous dire un peu où portent les actions de cette nébuleuse qu'on appelle Wagner, voici un peu le bilan de son activité que nous avons découvert. En Libye, il y a plus de 1200 personnes appartenant à Wagner. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, livraison d'armes, combat avec l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. Ils ont 35 tués dans la bataille de Tripoli. Selon Africom, en juillet 2020, ils ont posé des mines et des engins explosifs improvisés dans des zones civiles de Tripoli et de ses environs. Ils ont massacré la famille d'un Libyen de 28 ans dans une ferme. Ils ont envoyé des armes et des mercenaires en violation de l'embargo. En Ukraine, ils sont présents aussi, 2500. C'est soutien aux séparatistes pro-russes pour attaquer l'armée ukrainienne. Selon les services secrets ukrainiens, assassinat ciblé de plusieurs chefs de guerre pro-russes ayant désobéi aux ordres du Kremlin. Présents également en Syrie, entre 3000 hommes. Avec l'armée syrienne, reconquête des champs de pétrole, libération de Palmyre, encadrement des forces spéciales anti-Daesh. Exactions, torture et exécution d'un déserteur syrien en 2017. D'autres exactions sont en cours d'examen par des associations des droits humains, dont Mémorial. Présents également au Soudan, 300 hommes. Ils aident en 2019 le président Omar al-Bashir à réprimer des manifestations. Le Trésor américain accuse une société de Prigogine d'exploiter au Soudan des mines d'or à des fins d'enrichissement personnel et pour propager son influence néfaste autour du monde. Présent en Centrafrique, depuis 2018, former, équiper la garde présidentielle et l'armée, protéger le président Touadéra des groupes rebelles. Selon l'ONU, participation directe au combat et protection des mines d'or et de diamants en contrepartie d'une part des revenus. Il y a toujours beaucoup de bénéfices pour cette armée secrète. Exécution, torture, viol, vol des civils, selon l'ONU. Le 15 février 2021, des membres du groupe Wagner incendient des maisons, violent, torturent ou exécutent une douzaine de civils à Bambari, dans le centre du pays. Wagner opère dans 9 pays africains, le Soudan, la République centrafricaine, la Libye, le Zimbabwe, Angola, Madagascar, Mozambique, Guinée, Guinée-Bissau. Ils forment des forces de l'ordre, protègent des dirigeants, fournissent des armes ou aident à réprimer des rébellions. Dans certains pays, ils obtiennent en échange le droit d'extraire de l'or, du gaz, du pétrole et des diamants. Au Mozambique, leur mission, c'est l'assistance tactique de l'armée mozambicaine contre une insurrection islamiste dans le nord. Au Venezuela, en Amérique du Sud, 400 hommes de Wagner renforcent la sécurité du président Nicolas Maduro depuis janvier 2019. Voilà, et ensuite vous avez un article sur les journalistes qui ont été tués alors qu'ils enquêtaient sur Wagner en Afrique. Voilà, donc n'hésitez pas à aller à la médiathèque ou à vous abonner à cette revue hein, qui s'appelle La Chronique d'Amnesty International. On parle aussi de... Il y a un portfolio sur SOS Méditerranée, sur les rotations qu'ils font en Méditerranée pour sauver les gens qui fuient la guerre et la misère. Et ensuite, vous avez des renseignements sur les films qui paraissent, les livres, et puis les actions des groupes d'Amnesty International de par le monde. Et vous avez également trois lettres que vous pouvez faire pour défendre des personnes injustement emprisonnées ou torturées. Voilà, donc c'est la chronique d'Amnesty International que vous pouvez trouver à la médiathèque et vous pouvez aussi vous abonner en allant sur le site amnesty.fr. On va maintenant écouter une chanson de Julios Bokan, toujours. Chanson beaucoup plus douce que celle qu'on a entendue précédemment, parce que c'était un immense poète. Voilà, ça s'appelle « De mémoire de rose ».
De mémoire de rose, on a vu mourir un jardinier. Si rien qu'une pause ne peut vous suffire, madame, laissez. Le temps s'étirer sans le maudire, patientez. Laissez-vous glisser dans le vent léger, patience, patientez. Si l'amour s'envole, ne t'en prends qu'à toi. Tu as fui l'école pour le lit d'un roi. Si sa voile blanche n'est plus que brouillard, te pends pas à la branche dès qu'il fera noir. Te pends pas à la branche dès qu'il fera noir. Car de mémoire de rose, on a vu mourir un jardinier. Si rien qu'une pause ne peut vous suffire, madame, laissez. Le temps s'étirer sans le maudire, patientez. Laissez-vous glisser dans le vent léger, patience, patientez. Garde tout au fond de toi, un vide, un endroit, derrière les fêtes. Ou poser la tête dans le vent du soir, bercer ses vieux rêves, même s'il fait noir, bercer ses vieux rêves. Même s'il fait noir, car de mémoire de rose, on a vu mourir un jardinier. Si rien qu'une pause ne peut vous suffire, madame, laissez. Le temps s'étirer sans le maudire, patientez. Laissez-vous glisser dans le vent léger, patience, patientez.
Encore du beau Julios Bokan.
Encore du très beau Julios Bokan. On va maintenant parler des activités du groupe d'Amnesty de Digne-les-Bains. Alors bon, depuis la pandémie... on a réduit énormément tout ce qu'on faisait tourner vers l'extérieur. Mais bien sûr, on a continué à travailler, notamment envoyer des courriers régulièrement pour faire libérer des personnes ou faire cesser des tortures ou commuer des peines de mort partout dans le monde. On a renoncé à faire notre foire aux livres d'octobre parce qu'on nous demandait de demander le pass sanitaire à toutes les personnes qui allaient rentrer. Donc on espère que la situation s'arrangera en 2022 et qu'on pourra faire notre foire aux livres de printemps. On vous donnera alors les dates. Voilà, sinon les activités, il y a une course des femmes qui s'appelle la Marseillaise des femmes qui a lieu à Marseille le dimanche 17 octobre. Et vous pouvez vous inscrire pour participer à cette course. Alors il y a 1 € pour chaque participant qui est reversé à Amnesty International. Et nous tenons un stand pour présenter le mouvement et notamment ce que fait Amnesty pour la protection des femmes.
On rappelle contre les violences. La date.
Donc c'est le dimanche 17 octobre. Et le samedi 16 octobre, il y a l'installation, il y a les stands, voilà. Et la course elle-même a lieu le 17 octobre, le dimanche, dans Marseille. Et c'est une course qui réunit énormément de femmes. Alors il y a des hommes qui peuvent courir aussi, mais il faut qu'ils soient accompagnés d'une femme. Et sinon, on peut marcher aussi, si pour participer, si on ne veut pas courir. Voilà. Voilà, sinon je pense qu'on va reprendre un peu nos activités d'éducation aux droits humains au Sacré-Cœur et puis dans les lycées. Voilà, l'antenne jeune qu'on avait créée il y a quelques années au Pierre-Gilles de Gênes va repartir avec une nouvelle responsable puisque celle qui était l'année dernière a réussi le bac et est partie. Voilà, c'est pas grave. Donc, demain, on se réunit chez un membre du groupe pour notre réunion mensuelle, voilà, qu'on avait un petit peu arrêtée ces derniers temps, même si on communiquait beaucoup par Internet. Donc, si jamais il y a des auditeurs qui veulent rejoindre le groupe de Digne, ils peuvent contacter la radio peut-être ou nous contacter.
Oui.
Voilà, c'est bien volontiers qu'on accueillera de nouvelles personnes. Voilà, je suis un peu en avance, alors je vais vous parler d'un rapport qui est sorti d'Amnesty que vous pouvez trouver sur le site amnesty.fr. N'hésitez pas à y aller, vous avez des pétitions à signer en ligne et puis vous avez des informations sur justement les enquêtes qu'on mène, les sujets que l'on traite. Donc là, on a beaucoup parlé du vaccin contre le Covid-19. On ne rentre pas sur l'efficacité ou non des vaccins, etc. Mais simplement, Amnesty souligne la responsabilité des entreprises qui fabriquent ces vaccins par rapport à la répartition et la possibilité aux personnes de se faire vacciner. En effet, on s'est rendu compte que sur 5,76 milliards de doses qui ont été injectées dans le monde, il y a 0,3% qui sont allés à des pays à faible revenu. Tandis que les pays à revenu intermédiaire supérieur ou à revenu élevé en ont reçu 79%. Jusqu'à présent, toutes les sociétés évaluées ont refusé de participer aux initiatives coordonnées au niveau international pour accroître l'approvisionnement mondial en vaccins grâce à un partage de savoir-faire et de technologies. Elles ont également opposé leur refus à la levée temporaire des droits de propriété intellectuelle, notamment la proposition de l'Inde et de l'Afrique du Sud de déroger à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et de l'Organisation mondiale du commerce. Voici quelques éléments de notre recherche. Pfizer et BioNTech ont pour l'instant livré au seul État suédois 9 fois plus de doses de vaccins qu'à tous les pays à faible revenu réunis, auxquels ces laboratoires ont alloué moins de 1% de leur production à ce jour. Grâce au prix élevé auquel ils vendent leurs vaccins, ils devraient engranger plus de 86 milliards de recettes d'ici à la fin 2022. Moderna n'a pas encore livré une seule dose de vaccin à un pays à faible revenu. Il a alloué seulement 12% de sa production à des pays à revenus intermédiaires et n'honorera pas la grande majorité de ses commandes destinées à COVAX avant 2022. Grâce à ces tarifs élevés, cette société devrait gagner plus de 47 milliards de dollars américains d'ici fin 2022. Voilà, donc ils engrangent des sommes astronomiques, ils ont reçu des subventions d'État et les prix sont toujours aussi élevés. Donc si vous voulez plus de renseignements, allez sur le site d'Amnesty.fr. On va finir avec Julos Bocarn, une chanson particulièrement tendre puisqu'elle s'appelle « J'aimerais tant te parler tendre ».
Merci Régis. Et donc, on se retrouve le mois prochain.
Le mois prochain.
Voilà. Merci et à bientôt.
J'aimerais tant te parler tendre un soir d'hiver au coin d'un feu, te dire des mots à pierre fendre, à fondre la banquise des yeux. J'aimerais tant tendre la perche d'un grand sourire radieux, prendre le temps de dire je t'aime, arrêter les courses et les jeux. Dans le silence, silence. J'aimerais te faire douce, douce, à 12h12, pourquoi pas 13h12 à 13h13, blottie tendrement dans tes bras. Il n'y a jamais d'overdose pour les doudous, enfin je crois. L'amour est une énergie douce qui réchauffe tant haut que bas. Dans le silence, dans le silence. Il fait froid, ce serait bon se fendre d'un baiser tendre, même de deux. Enfin se fondre et se confondre et n'être qu'un bien qu'étant deux. Se perdre dans l'espace immense, oiseau léger au gré du vent. Perdre doucement connaissance, naître à nous-mêmes en même temps. Dans le silence, dans le silence. J'aurais tenté mais lire les lignes subtiles de tes blanches mains. Pêcheur d'amour, tendre ma ligne, te faire mordre mes lèvres, au moins, oui, j'aurais tant aimé descendre au plus secret de tes jardins, écouter le vent dans les branches de tes longs cheveux châtains. Dans le silence, dans le silence. Mais je n'ai pas dû tant t'attendre, tu m'as prise au piège amoureux, et c'est moi qui me suis fait prendre aux appos si beaux de tes yeux. Étaient les prix qui croyaient prendre, j'étais seule, nous voilà deux. Je n'ai rien perdu pour attendre, le temps est venu d'être heureux. Dans le silence,